Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Tandis que la Russie vient de faire une démonstration de sa puissance militaire, la Chine, elle, gagne du terrain avec le développement de ses forces navales. Elle compte désormais plus de navires de guerre et de sous-marins que les États-Unis. Pourquoi joue-t-elle la carte du déploiement de sa marine? Quelles sont ses intentions? Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse responsable de la Chine à l'IFRI. Vous avez notamment dirigé La Chine dans le monde aux éditions du CNRS. Il n'est pas inutile de rappeler quelques repères sur l'histoire de la marine chinoise qui a fêté son 69e anniversaire il y a quelques semaines.
Oui, la Chine n'est traditionnellement pas un pays qui a une marine forte. Il avait une bonne armée de terre, bien costaud, et la marine soutenait cette armée de terre. Alors depuis Hu Jintao, mais surtout depuis Xi Jinping, le président actuel qui est arrivé au pouvoir en 2012, la Chine investit massivement dans la marine, très massivement, puisqu'elle vient de mettre à l'eau son deuxième porte-avions, et probablement son troisième d'ici 2020. Alors les chiffres sont impressionnants, hein. Vous les avez cités. Impressionnant également, c'est le déploiement des radars, des missiles, des sous-marins. La Chine dispose désormais de bons systèmes de sous-marins. Et cela impressionne. En même temps, il faut garder le sens des proportions. Si on regarde les porte-avions, par exemple, la Chine n'en compte que deux. Mm-hmm. Les États-Unis, 11. Alors, de manière générale, si on compare la marine chinoise à la marine américaine, qui est quand même la première marine du monde, la Chine reste très loin derrière, à la fois en quantité et en qualité. Et même en termes d'expérience, et de ce qu'on appelle dans le jargon militaire capacité de projection. C'est-à-dire que la Chine dispose de peu de bases navales à l'étranger. Si on parle autant de Djibouti qui a été créé l'année dernière, c'est parce qu'en fait c'est la première base navale chinoise en dehors de l'Asie-Pacifique. Donc on n'est qu'au début de l'émergence de la marine chinoise. C'est un processus de long terme. Il ne faut pas sous-estimer ce développement, mais il ne faut pas non plus surestimer. C'est un attribut de puissance. C'est pour défendre les intérêts chinois en Asie-Pacifique, mais c'est aussi pour faire plein de choses d'autres une marine.
Oui, alors justement, parce qu'on se dit que s'il y a un tel développement, et cela avec également beaucoup de publicité donnée autour de cette marine, c'est probablement qu'il y a des arrière-pensées. Lesquelles? Alors on pense tout d'abord à la question de ces îlots de la mer de Chine. Il faut que vous nous rappeliez, Alice Ekman, ce que sont ces îlots et finalement pourquoi ils posent problème.
Déjà, c'est important de rappeler que la plupart des intérêts fondamentaux de la Chine, c'est-à-dire les points chauds que la Chine considère très importants, se situent en Asie-Pacifique. Donc il y a la mer de Chine du Sud, la mer orientale, mais il y a surtout Taïwan. Et Taïwan, le détroit de Taïwan, ça reste un point très chaud en Asie-Pacifique. Et la Chine a bien conscience qu'elle ne peut pas rivaliser en nombre et en quantité vis-à-vis de la marine américaine, mais elle espère à la fois dissuader et tenter ce qu'elle appelle un rattrapage asymétrique, c'est-à-dire réorganiser les forces, développer ses capacités pour pouvoir réagir en cas de crise dans l'étroit de Taïwan ou en mer de Chine du Sud. Donc on est encore dans une phase de rattrapage, mais ça ne sert pas uniquement à défendre les intérêts chinois en Asie-Pacifique, c'est-à-dire la base navale à Djibouti. La Chine, en tout cas les autorités chinoises, soulignent que c'est également pour évacuer les ressortissants. La Chine a évacué en 2011 plus de 36 000 ressortissants chinois qui étaient présents en Libye. On l'oublie, mais la crise libyenne, ça a été un tournant pour la Chine parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de ressortissants étrangers et qu'il fallait avoir une marine capable d'évacuer ces ressortissants. De même, 5 ans plus tard, la Chine a évacué plus de 600 ressortissants chinois au Yémen et également des ressortissants étrangers. Donc une marine, ça sert à protéger ses intérêts maritimes, territoriaux en Asie-Pacifique, à évacuer ses ressortissants étrangers, mais aussi à protéger ses investissements et les échanges commerciaux. La Chine participe depuis 2008 à des opérations anti-piraterie au large de la Somalie. On le connaît peu, mais c'est parce que plusieurs bateaux chinois étaient attaqués par des pirates depuis cette date. Et la Chine considère qu'il faut avoir une marine aussi qui puisse escorter et protéger ces bateaux commerciaux. Donc c'est plein de choses, mais c'est aussi un attribut de puissance, c'est symbolique. Avoir un porte-avions, et ça on impose.
Alors il y a un attribut symbolique, mais réel, puisque les îlots de la mer de Chine, donc, qui ont été annexés, qui sont aujourd'hui disputés, peut-être que la Chine imagine devoir un jour les défendre.
Oui, mais elle les défend déjà aujourd'hui. Hein. Il y a on va dire des actions de surveillance, il y a des passages en mer de Chine du Sud, y compris des passages d'ailleurs de bateaux français, hein, bateaux européens, français avec les Britanniques. Mais disons qu'il y a déjà des rivalités très fortes en Asie-Pacifique. Et progressivement, le développement de la marine chinoise modifie les rapports de force dans la région Asie-Pacifique. Et c'est ça aussi. Et progressivement, on observe une course à l'armement en Asie-Pacifique, c'est-à-dire que certains pays voisins de la Chine ont peur de ces développements de la marine chinoise et eux-mêmes se réarment, modernisent leur capacité. Alors si on parle de l'Asie-Pacifique au sens large, bah, l'Australie a acheté des sous-marins d'ailleurs à la France récemment, mais d'autres pays également investissent massivement dans leur capacité militaire. Je pense à l'Inde, si on parle de l'Indo-Pacifique qui est le nouveau concept à la mode au sein des diplomaties occidentales, il y a également le Vietnam, il y a également la Thaïlande, l'Indonésie qui ne peuvent pas faire le poids, mais qui s'inquiète quand même de ce développement de la marine chinoise.
Et puis, vous avez évoqué Taïwan. Alors, on parle beaucoup de la Corée du Nord et de la menace qu'elle pourrait représenter pour la paix dans le monde, mais un conflit possible, ou en tout cas une augmentation de la tension entre Taïwan et la Chine, est un scénario envisageable, Alice Ekman ?
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Chine dispose d'une palette d'outils à sa disposition pour promouvoir ses intérêts, et que l'outil militaire, c'est un des outils de cette palette, c'est-à-dire qu'il est l'outil économique, la pression économique sur Taïwan, qui marche plutôt bien. En tout cas, c'est des sanctions économiques que la Chine peut exercer en fonction des désaccords. Il y a aussi la communication stratégique, il y a la diplomatie. Et donc, une escalade des tensions militaires, on n'est jamais à l'abri d'une guerre, on le sait, mais disons que...
C'est important pour la Chine, Taïwan.
Alors c'est très important. S'il y avait en tout cas un point de tension qui pourrait escalader en guerre, de mon point de vue, c'est Taïwan.
Pourquoi ?
Parce que la Chine considère que Taïwan est sur son territoire, et de facto, elle ne l'est pas.
Et donc, il peut y avoir, là aussi, entre les différentes puissances, les États-Unis par exemple, la Chine et Taïwan, des intérêts divergents, avec un risque d'escalade.
Oui, de toute manière, la Chine et les États-Unis ont des points de vue, des positions diamétralement opposées sur Taïwan. Et les tensions se sont renforcées depuis 2016, suite à plusieurs événements. L'élection de Tsai Ing-wen, la candidate dite indépendantiste à Taïwan. L'arrivée de Xi Jinping au pouvoir et l'arrivée de Donald Trump aussi au pouvoir aux États-Unis, qui a promu aujourd'hui, qui promeut les visites officielles de haut niveau entre Taïwan et les États-Unis, qui exaspère Pékin au plus haut point.
Ce qui veut dire que finalement, cette marine de guerre, on voit au moins deux endroits où elle pourrait être mobilisée, d'après ce que l'on peut savoir aujourd'hui, Alice Ekman.
Oui, deux endroits, donc la mer de Chine du Sud, Taïwan, mais au-delà des missions plus pacifiques d'évacuation de ressortissants en Afrique ou au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Alice Ekman, je rappelle que vous êtes responsable de la Chine à l'IFRI, vous avez notamment dirigé La Chine dans le monde, c'est aux éditions du CNRS.